émission exceptionnelle aujourd'hui sur nos radios associatives des régions Poitou, Charente, Aquitaine et du Limousin. C'est une émission en direct du Salon National de l'Économie Sociale et Solidaire à Niort. Autour de la table donc pour cette émission exceptionnelle, nous avons Michel Lestel qui est la trésorière de la Fédération Aquitaine des radios locales et membre de la commission Fonds de soutien à l'expression radiophonique pour le syndicat SNRL. Nous avons Jean-François Macker qui est le président de la région Poitou-Charentes, candidat à la grande région pour le PS. Jean-François Macker, bonjour. Gilbert Fabreau, bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental des Deux-Sèvres. Denis Lespiau, vous êtes aussi avec nous. Vous êtes le président du groupement des radios associatives du Limousin. Enfin, le dernier, Pierre-Yves Boutin, vous êtes le président de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de Poitou-Charentes qui a donné lieu donc ce salon. On est réunis donc pour cette émission pour parler des radios associatives de nos trois régions. Alors les radios associatives de nos trois régions, qu'est-ce que c'est ? C'est 46 radios en Aquitaine, 18 en Poitou-Charentes, 19 en Limousin. Toutes ces radios, elles emploient en tout 242 personnes et elles sont écoutées par de 15 à 20% de la population régionale, c'est peu dire. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de l'avenir, de la situation de ces radios associatives et de leur avenir avec les élections régionales qui approchent et la nouvelle région. Alors pour commencer, je vais d'abord aborder avec vous un système de mutualisation qui a été mis en place au niveau de la région Limousin et dont vous êtes le responsable, Denis Lestiau, puisque je vous disais tout à l'heure, vous êtes le président du groupement des radios associatives Limousin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette mutualisation de moyens et cette coopération entre toutes ces radios ?
D'abord, les circonstances favorables. C'est important de le dire parce que je pense que quand ces messieurs à côté des collectivités territoriales vont intervenir, ils auront des éléments à apporter. Mais je pense qu'il faut dire d'une part que la première des circonstances favorables, c'est la volonté de travailler ensemble des dirigeants des stations du Limousin, et c'est favorisé par une proximité géographique, ça c'est indéniable. Ensuite, il y a eu une autre circonstance favorable, c'est le soutien des dispositifs globalement de l'économie sociale et solidaire au secteur associatif, aux entreprises de l'ESS, via ce qu'on appelle les dispositifs locaux d'accompagnement, qui ont permis à toutes nos radios, au tout début des années 2000, d'entrer dans des démarches de DLA, donc avec des consultants.
De faire des dossiers, en bref.
Voilà.
Les dossiers de subvention.
Pour améliorer la gestion de l'ensemble de nos radios. Globalement, ce qui est ressorti de ces démarches de DLA, c'est un conseil global de la plupart des intervenants, essayer d'entrer dans des démarches de mutualisation. Alors, vous avez d'une part une volonté de travailler ensemble des dirigeants, vous avez les conseils qui viennent en appui là-dessus, et puis en 2004, il y a eu une politique publique spécifique au Limousin. Je dis spécifique au Limousin parce que c'est ce qu'on appelle les emplois associatifs qui sont venus financer 50% des emplois chargés sans condition de public. Ça, c'est très très important, sans condition de public, parce que alors nos radios, elles ont certes une vocation de formation, beaucoup de professionnels de la com qui et de la radio qui ou du journalisme ou de l'animation qui aujourd'hui opèrent sur d'autres radios plus prestigieuses sont souvent passés par des radios associatives. On a des exemples célèbres. Voilà. Là, on a pu embaucher des professionnels qui ont accepté de participer à un projet associatif fédéral et un projet éditorial. Alors, au départ, donc j'en viens à ce que vous comment ça fonctionne. Au départ, on était dans une logique de service, c'est-à-dire qu'on voulait absolument que chaque radio puisse disposer d'un journal régional. Donc, on a recruté un journaliste et pour financer, contribuer à côté de l'aide de la région. Sur ce premier emploi à l'économie du système, on a créé une régie qui mutualise les espaces publicitaires de l'ensemble des radios membres du groupement. Ça a fonctionné dès la première année. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que...
C'est-à-dire que, si je vous comprends bien, il y avait une partie ressources qui était faite par... la publicité qui était...
Des collectivités territoriales.
Des collectivités territoriales qui permettaient en fait de financer un emploi pour le journal régional.
Voilà,
c'est
parce
ça
que on est limité en publicité commerciale, comme vous le savez, Michel Lestel l'a dit. Donc le seul moyen de financer ce nouveau service en dégageant de nouvelles ressources, l'idée c'était pas de demander à des radios qui avaient des difficultés financières tous les ans, c'est difficile de boucler un budget de radio associative, de taper dans leurs ressources pour mutualiser des emplois. Donc on a préféré générer de nouvelles ressources pour financer un nouveau système. Et c'est vrai que ça a fonctionné dès la première année, alors évidemment grâce à la politique publique de la région, mais aussi parce qu'on est allé chercher ces ressources à la région, parce qu'il y avait des campagnes de communication qui étaient achetées sur des radios commerciales qui pouvaient passer sur les radios associatives, au titre de ce qu'on appelle les messages d'intérêt général ou collectif. Mais également auprès des conseils généraux à l'époque, conseil départemental maintenant, ou des agglos, aujourd'hui des agglos ou des villes de la région Limousin. Donc on a fidélisé des clients sur l'ensemble des 10 ans avec des gens qui nous font confiance année après année parce que ben, ils ont des retombées de toute façon. Ouais. Notamment les structures qui sont des établissements publics qui gèrent des musées comme le Centre de la mémoire d'Oradour par exemple qui chaque année renouvelle son budget d'achat d'espace pour l'année. Ensuite, ce qu'il faut dire c'est qu'on a également, on a voulu mettre en place une politique de formation de l'ensemble de nos salariés, et notamment de nos journalistes. Et donc, on a fait appel à l'AFDAS, et avec l'AFDAS, on a mis en place un programme pilote de formation qui, après, a servi dès les années 2005, 2006, 2007. On a fait un plan de formation pluriannuel qui a permis d'améliorer les compétences de nos salariés en charge de l'information, qu'ils soient journalistes titulaires d'une carte de presse ou animateurs. Voilà. Donc, globalement, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que autour de ce projet, il y a un projet associatif, mais il y a surtout une ligne éditoriale. Et là, je veux souligner que les radios associatives, de ce point de vue-là, chez nous, en fait, d'une part, la ligne éditoriale, elle est assez simple. C'est d'une part mettre en œuvre la mission de communication sociale de proximité, donc de soutenir le secteur associatif, de lutter, de souligner les initiatives qui luttent contre les exclusions en faveur du développement durable, du développement local, etc. Et parmi ces initiatives, il y a évidemment les entreprises et les structures de l'économie sociale et solidaire, ce qui fait que nous, en Limousin, on se revendique doublement comme des radios de l'autre service public, d'une part, et les médias privilégiés de l'économie sociale et solidaire.
Voilà. Et le premier service public, pour vous, c'est qui, du coup?
Ah ben, c'est le premier service public, ça reste les radios du service public.
France Bleu, France Inter.
Voilà. Donc, voilà. Donc les résultats, c'est que aujourd'hui, depuis 10 ans, on a constamment augmenté nos audiences dans les radios, qu'on a amélioré le professionnalisme de nos salariés. Si vous comparez un petit peu le taux de CDI en Limousin, il est un peu supérieur à celui des deux autres régions, parce que je sais que Michel Lestel a conduit une étude là-dessus récemment à travers les dossiers du fonds de soutien, et c'est quand même assez net. On a un turnover de nos salariés qui est assez faible, en dehors des stagiaires que nous avons, parce que en matière de formation, on a développé aussi un partenariat avec l'École supérieure de journalisme de Lille-Montpellier. Et donc, on accueille des journalistes en formation, en contrat de professionnalisation, à côté de nos permanents journalistes qui sont parfois là depuis 10 ans.
Ce que vous défendez, c'est le caractère professionnel des radios associatives du Limousin.
Ah oui, je pense que c'est indéniable, oui. Au point que nos relations avec France Bleu sont parfois un peu compliquées, parce que certains dirigeants de France Bleu considèrent qu'on est leur premier concurrent.
Bien. Alors, on a parlé travail en commun, on a parlé mutualisation de moyens, on a parlé argent. Les collectivités territoriales sont régulièrement sollicitées pour participer au développement des radios associatives. Alors, je vais vous donner la parole, du coup, François Macaire, je vais commencer par vous. Est-ce que vous avez mis en place un dispositif en Poitou-Charente? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels ont été vos choix, qu'est-ce qui les ont motivés, comment ça se passe?
Effectivement, il y a à peu près 10 ans, quand Ségolène Royal est arrivée à la tête de la région, il y a eu un mouvement qui s'est produit dans les radios associatives, qui a été constitué au départ par le volontarisme des porteurs de ces radios, avec l'idée qu'il pouvait y avoir un travail régional qui permettrait de les structurer, les professionnaliser. Et c'est effectivement ce qui s'est produit, puisque la région, année après année, a mis en place un budget à la fois pour aider la structure fédératrice des radios, pour aider chacune des radios dans leur fonctionnement et pour aider chacune des radios en investissement. Donc il y a eu beaucoup d'outils qui ont été mis en place. Cette année, en 2015, c'est à peu près 170 000 euros qui sont apportés. Et le résultat est positif, puisque nous avons effectivement un maillage de radios qui couvre à peu près l'intégralité du territoire, avec aussi un travail commun entre ces radios, et notamment une forme d'agence de presse, c'est-à-dire qu'il y a un partage du travail qui se fait entre les radios pour qu'il y ait des journalistes qui puissent être sur le terrain et sur l'actualité régionale et redistribuer toute cette info aux 18 radios, et non pas que chacune soit obligée d'avoir son staff de présence. Donc je crois que ça fonctionne bien. J'allais dire, moi, surtout, ce qui nous a motivés avec les élus du Conseil régional dans cette affaire-là, c'est l'importance du média radio, bien sûr, et du média le caractère associatif, du caractère participatif,
oui,
bénévole. Parce que dans les radios, il y a des professionnels, pas très nombreux, parce que c'est des radios, comme ça vient d'être dit, qui n'ont pas forcément des gros moyens financiers, mais il y a beaucoup de bénévolat. Et ça permet de rendre beaucoup plus vivants les émissions, d'avoir une proximité du territoire. Aussi, très souvent, la caractéristique de ces radios associatives, c'est qu'elles sont très locales, voire parfois thématiques. On soutient aussi des radios dans les lycées, par exemple. Cet impact-là, nous y tenons beaucoup, parce que nous avons besoin, dans chaque territoire, qu'effectivement, il y ait des médias qui soit approprié par les citoyens. Nous sommes ici au Salon d'économie sociale et solidaire. La communication, c'est un secteur d'activité important. Et en plus, c'est une activité stratégique pour la démocratie. Donc d'avoir des radios associatives qui ne dépendent que, non pas d'un groupe de presse, mais qui ne dépendent que d'une communauté de bénévoles sur un territoire, c'est très précieux. Nous y tenons, et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés.
Bien, alors je me tourne vers vous maintenant, Gilles Favreau. Vous avez choisi comme cible...
Gilbert,
pardon, excusez-moi. Gilbert Favreau, vous avez choisi une cible, c'est l'info, et de financer l'info. C'est un choix particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment ça marche et pourquoi vous avez fait ce choix-là?
Bien, enfin, en fait, on finance l'info, mais on ne finance pas que l'info, parce que, de fait, c'est aussi un soutien effectif aux radios locales de ce département. Nous sommes sur un département où l'ouverture possible aux radios locales, dès que cette ouverture s'est faite, on a un département qui a des territoires très identitaires. Donc on a eu très vite un certain nombre de radios qui se sont créées dans les années 80.
Identitaires, vous entendez par...
Oui, c'est-à-dire qu'on a les Deux-Sèvres sont un département, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais c'est un département qui... dans la composition de ces territoires, est assez hétérogène. On a le Bressuire, le Toircé, la Gâtine, le Mélois, le Niortais, qui sont tous des territoires qui ont une identité très forte et un petit peu différente. Et dans chacun de ces territoires, à l'exception d'ailleurs, paradoxalement, du Niortais, qui est la ville chef-lieu, eh bien, on a eu très tôt des radios locales, donc Radio Gâtine sur la Gâtine, Colline FM sur Bressuire, Radio Val-d'Or sur l'Hervaudais et le Toircé, et puis dans le Mélois, des 4B. Et ces radios, finalement, fonctionnaient bon an, mal an, avec les difficultés que connaissent toutes les radios associatives, jusqu'en 2004. Et en 2004, nous avions à l'époque, au département, un de nos directeurs, qui d'ailleurs, et ça mérite d'être souligné aujourd'hui, est issu du mouvement social et solidaire, puisqu'il était un ancien directeur de centres socio-culturels, qui a imaginé d'aider au partage de l'information. C'est-à-dire qu'il a mis en place un dispositif avec le département qui consiste d'abord à créer une unité, disons, légale, avec un conventionnement qui était très précis, des obligations réciproques pour chacun. Et le dispositif consiste, pour chaque radio, ça fait des économies de temps, de déplacement, chaque radio, donc, lorsqu'elle va enregistrer une émission, va pouvoir la transmettre aux autres. C'est un petit peu l'intérêt et la nouveauté du dispositif. Et effectivement, aujourd'hui, si par exemple je suis interrogé par Radio Gâtine sur un sujet qui peut intéresser l'ensemble du département, eh bien, les quatre radios se partagent cette information. Alors, cet objectif, c'était l'objectif premier. Il y avait un autre objectif, c'est d'ancrer quand même ces radios dans leur tissu identitaire. Je vous ai expliqué tout à l'heure que même si ce département est un département du mutualisme, du consensus, tout le monde le reconnaît, pour autant, il y a des particularismes locaux qui sont très forts. Donc, c'était aussi la capacité qu'on avait de donner à chacun de ces territoires un moyen d'expression fort, tout en laissant les autres en profiter. Et puis, il y avait un autre aspect qui mérite aussi d'être souligné, c'est la capacité d'archiver cette information. Puisqu'effectivement, tout ce qui passe par ce partage d'informations est archivé et que cet archivage est organisé. Alors, bien évidemment, en parallèle, un certain nombre d'obligations pour les radios, mais également une obligation, et on y revient toujours, une obligation financière pour le département, puisque le département, je crois qu'à cet égard, c'est un département qui est généreux, met 100 000 euros sur la table tous les ans, 25 000 euros pour chacune des quatre régions, essentiellement pour la radio et pour le fonctionnement. On doit dire qu'au fil du temps, on s'est aperçu que c'était essentiellement du fonctionnement. Il reste toujours dans les radios l'aspect investissement, dans les équipements et autres. Et je dois dire que pour être par ailleurs président d'un syndicat de pays, nous avons, nous, largement, avec l'aide généreuse de la région, contribué dans le cadre du contrat de territoire à des investissements sur les équipements de la radio. On a même à une époque imaginé de les libérer de l'obligation qu'ils ont à l'égard de TDF pour éventuellement installer un pylône. Alors, mais là, c'est plus cher.
Il faut expliquer. TDF, en fait, étant la société qui permet aux radios d'émettre. Aujourd'hui, il y a plusieurs... Alors, peut-être Denis Lespieux peut nous l'expliquer, parce qu'il y a plusieurs exemples en Limousin, plusieurs options, je crois.
Oui, en fait, c'est important ce qu'a dit Gilbert Favreau, comme ce qu'a dit Jean-François Macaire, et ça souligne l'hétérogénéité en fait des modes de financement des radios associatives, qui de toute manière sur chacune sur leur territoire, elles sont des éléments de lien social, chacun l'a bien compris, indispensable. Les systèmes qui ont été mis en place permettent d'améliorer non seulement la qualité de l'information sur les territoires, mais également de faire mieux connaître les territoires et les particularismes locaux au-delà de leur strict territoire, puisque à partir du moment où on mutualise, on a une dynamique collaborative sur la réalisation d'un journal régional ou qu'on échange des programmes d'un territoire à l'autre, on permet à des habitants du nord du département des Deux-Sèvres de savoir ce qui se passe dans le sud du département des Deux-Sèvres, ou des habitants de Guéret de savoir ce qui se passe à Brive, à l'extrême sud, je dirais, du Limousin. Et ça, c'est important. Et c'est un élément qui renforce ce que les publicitaires ou les hommes de marketing, de communication appellent le sentiment d'appartenance à un territoire. Et je pense que dans la dynamique de la nouvelle grande région, quel que soit son futur nom, puisque ça fait partie des... Même si, vous voyez, en Limousin, On a un peu tendance à considérer que déjà le nom d'Aquitaine ou de Grande Aquitaine semblerait s'imposer. Enfin bon, c'est pas le débat, je sais.
Non, on n'a pas fini, sinon je crois.
Voilà. Non, pour en revenir après cette digression, pour en revenir à la problématique du financement, il est clair que chaque radio remplissant une mission de service public sur son territoire peut difficilement se passer des financements publics locaux. Alors si je peux témoigner de la manière dont ça se passe en Limousin. On a une situation très différente selon les radios, au sein même de notre groupement. Donc il y a le fonds de soutien. Le fonds de soutien, je parle sous le contrôle de Michel.
Ah, nous sommes en direct dans le salon, et donc des fois, il y a des gens qui interviennent.
Je parle sous le contrôle de Michel, c'est entre 40 et 60% du budget de la radio, le FSER. Il y a parfois un peu de publicité, quand on peut le faire. On peut davantage le faire en zone rurale, et c'est un élément de soutien à l'économie locale. On peut plus difficilement le faire en zone urbaine, parce qu'il y a là, sur les zones urbaines denses, une très forte concurrence avec les radios commerciales locales. Donc la plupart du temps, les radios en zone urbaine ont quasiment pas la possibilité d'arriver ne serait-ce qu'à 10% de financement d'origine publicitaire. Et puis les radios qui font bien leur travail, moi ce que je le constate, hein, qui peuvent salarier des journalistes durablement, notamment, qui peuvent avoir des matinales performantes, parce que l'audience de la radio c'est le matin, ben ce sont les radios qui bénéficient de contrats, d'objectifs et de moyens avec des collectivités territoriales de premier rang, communes, mais plus généralement communautés de communes ou plus marginalement communautés d'agglomération.
Alors justement, Monsieur Favreau.
Oui, sur ces financements, je souhaiterais intervenir parce que effectivement, lorsqu'on prend généralement le budget des radios, bon, on est fonds, il y a le fonds de soutien, bien évidemment. Bon, dans le département, il y a la BIRDS, puisque le dispositif dont je vous parlais, qui a un joli nom, c'est la Banque d'information radiophonique des Deux-Sèvres. Donc ça fait très aérien et ça marche bien. Il y a la publicité dans la proportion qui est autorisée, et puis il y a souvent l'intercommunalité. Alors je laisserai Jean-François Macaire parler de la grande région et des conséquences de la réforme institutionnelle actuelle, mais en ce qui concerne l'interco, les intercos, vous venez de le dire, sont aujourd'hui généralement les financeurs. On est en pleine réforme là aussi, parce qu'on n'arrête pas. C'est comme aller aux Galeries Lafayette, tous les jours il y a quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, l'interco change beaucoup. Les intercos chez nous sont généralement adhérentes de l'association et paient une cotisation. Cette cotisation, c'est quelquefois un peu difficile d'aller la chercher, ça dépend, il y en a qui sont généreux, d'autres un peu moins. Mais ce qui est sûr, c'est que demain, on a des modifications. On a des intercos qui se rassemblent, qui fusionnent, et je pense que ça peut être un élément de déstabilisation pour certains financements, d'autant plus que la période n'est pas particulièrement florissante pour les collectivités. Et donc je dis que à cet égard, c'est quelque chose que les radios devront surveiller de près. Je pense que Jean-François Macaire pourra éventuellement vous dire, lui, quelles peuvent être les conséquences radios de la fusion des régions.
Alors, avant ça, je suis désolée, il y a Michel Nessel qui veut rajouter quelque chose. Et effectivement, on va rentrer sur le débat des grandes régions après.
Oui, je voudrais rajouter deux choses. L'objectif du fonds de soutien, c'est donc soutenir les efforts là, des radios en matière de communication sociale de proximité, mais aussi à la diversification des ressources. Et par rapport au financement, justement, la volonté du fonds de soutien, c'est que les radio ne soit pas trop dépendante des collectivités territoriales, parce que on le sait, suivant les diverses élections, les changements politiques, eh bien certaines radios se sont trouvées faisant face à de très grosses difficultés puisqu'elles n'avaient plus de subventions. Donc ce qui fait que les subventions des collectivités territoriales représentent une part prépondérante des financements, mais il n'y a pas que ça. Il y a la publicité, mais il y a aussi, il faut pas oublier que les radios associatives sont des acteurs, des animateurs de la vie locale. Et pour cela, ils ont aussi des financements, des financements privés, où ils sont en tant qu'acteurs, ils organisent des manifestations. Et pour certains, ça représente quand même un financement important.
Par exemple, en Aquitaine, je crois que vous avez une manifestation.
Oui, il y a plusieurs manifestations, même il y a des radios qui organisent elles-mêmes des concerts très très régulièrement, ou alors des têtes d'encens ou autres manifestations. Non. Et ensuite, ils également réalisent des prestations, à savoir animation d'ateliers, ateliers avec les scolaires, et notamment dans le cadre des aménagements des nouveaux temps scolaires. Les radios associatives qui mènent quand même une éducation aux médias dès leur début, hein. Et on a une légitimité pour cela et un savoir-faire par rapport à ce qui est fait actuellement et qui est valorisé au niveau des aides du ministère. Hein. Mm-hmm. Donc on fait ça et il y a un financement qui est assuré soit par les établissements scolaires ou par les collectivités locales et d'autres financements. Donc il n'y a pas non plus que les subventions, puisque bien souvent on entend oui les radios associatives elles sont assistées quoi, non pas uniquement. Et c'est vrai que les collectivités locales dans certaines régions, heureusement les régions aident. En Aquitaine on n'a pas d'aide. C'est pour ça aussi qu'on a moins de journalistes, puisqu'on a moins de moyens. Donc l'aide à la professionnalisation est importante et grâce justement au soutien des régions. Et donc c'est vrai qu'il faut trouver d'autres finances.
Alors justement, d'autres financements avec du changement. Du coup, François Macaire, vous êtes candidat donc pour les futures élections de la nouvelle région. Comment vous envisagez de faire le lien entre des radios associatives qui sont au Pays Basque, on va dire, et d'autres qui sont sur le plateau de Bilvache en Limousin? Le challenge est quand même assez ardu, non?
Oui, mais la radio va être très utile, parce que l'un des enjeux pour cette nouvelle Aquitaine, si on veut on l'appeler ainsi, l'un des enjeux, ça va être justement de créer du lien entre les territoires et entre les citoyens. Et nous sommes dans une... C'est pas seulement un assemblage de trois régions, c'est un assemblage de territoires identitaires beaucoup plus fins, comme l'a dit Gilbert Favreau à l'instant, dans les Deux-Sèvres, déjà, six territoires. Mais dans chaque département, on va retrouver cela. Et justement, la radio associative, elle a pour... souvent, pour caractéristique, d'être ancrée sur un territoire. Pas sur cinq ou six, sur un territoire. Et donc, on aura besoin des radios pour créer ce lien... Et je pense qu'on va s'appuyer sur les réseaux et sur l'acquis. Nous avons ici en Poitou-Charentes donc le réseau qui s'appelle Franc, hein, c'est les radios non commerciales. Il y a la BIRDS qui est donc la banque d'information dans les Deux-Sèvres. Je trouve que c'est les bons outils finalement, mm-hmm. parce que ce qui serait sympa, c'est que sur les radios, moi j'habite Poitiers, si j'écoute Radio Pulsar ou Radio Accor, est-ce que je vais avoir des nouvelles du Pays Basque? Aujourd'hui, il y a peu de chance. Hein. Aujourd'hui, j'ai des chances d'avoir des nouvelles d'Angoulême et de La Rochelle, ce qui m'intéresse déjà. Mais demain, je voudrais avoir des nouvelles du Pays-Bas, je voudrais avoir des nouvelles de Guéret. Et donc, là, il y a un enjeu qui sera très intéressant et sur lequel les radios associatives, si elles relèvent ce défi-là, seront plus puissantes, probablement, que leurs concurrentes privées, peut-être pas le service public qui, lui, peut s'organiser, le réseau France Bleu, a des capacités d'organisation similaires, mais peut-être aura peut-être moins d'agilité pour le faire. Et puis très certainement les radios commerciales auront du mal à épouser ce nouveau territoire, parce qu'elles ne sont pas ancrées autant que les radios associatives dans ces territoires à identité. Okay. Voilà le schéma qui me paraît le meilleur pour donner demain de la participation citoyenne à la communication à travers les radios associatives.
Alors Denis Lespieux, vous êtes président du groupement des radios associatives du Limousin. Comment vous allez faire pour parler aux Limousins du Pays Basque?
Pour nous, c'est pas forcément un handicap. Moi-même, je suis originaire de la région du Grand Sud-Ouest. Bon. Donc on peut déjà en parler. Mais ce qui est intéressant, ce qu'a dit le président de la région Poitou-Charentes, c'est que moi, je peux témoigner que même au niveau du service public, il y a des soucis parce que, par exemple, très récemment, France Bleu a décidé de, par mesure d'économie, de fermer un certain nombre de ces micro-locales, c'est-à-dire de ces décrochements. Et en l'occurrence, France Bleu a fermé la micro-locale de Tulle. Et aujourd'hui, le seul journaliste qui opère sur le département de la Corrèze, c'est le journaliste du groupement des radios associatives du Limousin.
Oui, il y a quand même deux journalistes en Corrèze qui sont du service public, mais il n'y a plus de micro-locale.
Il n'y a plus de micro-locale et il n'y a surtout plus d'informations régulières sur ce qui se passe en Corrèze.
Voilà. Et de reporters.
Oui, mais bon, c'est pas pareil.
Bien.
Michel Lestel.
Oui, alors moi je réponds directement à Monsieur le Président de la région. Bien aujourd'hui, on est ici, donc à Niort. Les auditeurs du Pays Basque ou de la Creuse écoutent en direct cette émission, puisque les trois fédérations régionales se sont unies pour la première fois ici sur ce salon pour travailler ensemble et pour une diffusion sur l'ensemble du territoire de la nouvelle grande région. Et je tiens à souligner et à conforter ce que vous venez de dire, les radios associatives sont les seules à mailler tout le territoire de la nouvelle région, au fin fond du Pays Basque ou du Béarn, de la Creuse, des Deux-Sèvres. Parce que dans certains endroits, moi je tiens à souligner que l'auditeur a le droit à de l'information. Et dans certains secteurs de montagne ou de campagne où il n'y a pas assez de monde pour que les radios commerciales s'implantent pour avoir assez de publicité, eh bien nous y sommes. Et souvent nous y sommes même les seuls, le service public n'y est pas. Et ça sera facile pour que vous ayez de l'information du Pays Basque, puisque les trois radios ont toutes, je crois, une banque de programmes et d'échanges. Donc il va falloir maintenant inventer, en espérant votre soutien, justement, un nouveau système qui permette à ce que ces trois banques d'échanges de programmes puissent fusionner et ne donner qu'une, et pour que les auditeurs des Deux-Sèvres ou de Limoges ou autres puissent avoir une information locale, traitée localement aussi, avec un certain savoir-faire, un professionnalisme. Et aussi, vous dites, c'est important qu'on soit implanté localement, qu'on puisse dire vraiment ce qui se passe. On connaît les gens. Voilà. Et qu'on puisse retranscrire, retransmettre ça à l'antenne. Donc, c'est un défi que nous lançons et on espère que vous nous accompagnerez là-dessus.
Ben, c'était une jolie conclusion. Si ce n'est que, il y a une personne qui n'a pas encore parlé, c'est Pierre-Yves Boutin. Et Pierre-Yves Boutin, c'est important qu'il soit là parce que c'est donc le président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire du Poitou-Charentes. Et, des gens souvent se disent, bon, l'économie sociale et solidaire, ok, on voit à peu près, mais les radios associatives, qu'est-ce qu'elles viennent faire là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que vous, du coup, pour vous, c'est important, cette présence.
Oui, bien sûr, bonjour. C'est important notre présence, mais c'est important votre présence. Quand je viens d'entendre le discours militant de madame, moi je suis complètement à l'aise avec vous sur ce salon qui est votre salon, et on le voit bien. Et on voit tout l'intérêt du débat, effectivement, à maintenir les financements, que les questions techniques puissent évoluer, ce dont nous ne sommes pas spécialistes. Mais pour nous, CRES, aujourd'hui, Chambre régionale de l'économie sociale, nous sommes aussi dans cette dynamique d'une nouvelle région qui arrive. Et la question essentielle qui se pose pour nous, la première question, c'est la question de la proximité. Donc proximité et radio de territoire, radio de terrain, radio libre, radio humaine, j'ai entendu. Ce sont des questions qui sont forcément liées et nous avons forcément des partenariats à développer ensemble. L'économie sociale et solidaire n'est pas toujours bien visible. Donc je pense que grâce à vous sur le territoire, on peut développer cette visibilité. Peut-être quelques éléments à travailler ensemble dans un premier temps, c'est-à-dire pour une meilleure visibilité, vous rendre aussi visible auprès des acteurs de l'économie sociale. Où êtes-vous? Qui êtes-vous? À qui parlez-vous? Ce sont des éléments fondamentaux. Votre mise en réseau permet de travailler sur des territoires à géométrie variable. Nos acteurs travaillent sur des territoires parfois très étroits, mais certains de nos acteurs travaillent sur cette future grande région et même plus au large. Donc on peut imaginer des partenariats à géométrie variable. Ça me semble un axe important. Travailler sur la dimension de la pub, entre guillemets, parce que nos acteurs sont aussi dans l'économie, nous avons économie dans ce terme économie sociale, mais pas seulement. Travailler sur la connaissance de ce que sont nos acteurs, sur ces projets de citoyens, ces projets partagés, ces projets pour une autre économie. Je crois que nous avons des combats communs, nous avons des intérêts communs. Et vous voyez que la parole militante, elle est très proche, hein, même si nous avons des acteurs très importants, donc présents aujourd'hui ici à Niort, comme des mutuelles. Mais le militantisme, il a fleur de peau chez tous nos acteurs. C'est un choix de société et forcément que ces radios auprès des citoyens, elles nous concernent tous. Ça, c'est un premier élément. On peut donc développer des projets communs autour de ce que nous sommes, nous, acteurs de l'ESS, et vous en êtes. C'est un axe. Après, on peut imaginer aussi des projets particuliers que nous pourrions mener pour populariser les actions de cette future CRES région, grande région qui s'annonce. Hein. Comment annoncer des expressos? Comment annoncer ce salon? Hein, j'en profite. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes rediffusés sur les 80, par 83 radios. Si j'ai bien compris, l'année prochaine, rendez-vous à toutes les radios sur ce salon d'économie sociale à Niort, hein, pour le troisième salon. La date va en être bientôt connue. Voilà un exemple de ce que nous pouvons faire avec votre réseau. Et puis, développer des partenariats particuliers. Et puis, je vais peut-être faire un petit coup de pub pour un de vos membres, si vous me permettez, puisque la CRES Poitou-Charentes vient d'entamer un partenariat avec Radio Pulsar, une radio Poitevine, donc sur un territoire assez circonscrit.
Alors, dites-nous, elle travaille, j'ai pas bien entendu, elle est basée où, Radio Pulsar? Parce que, en Aquitaine et en Limousin, ça ne veut pas dire grand-chose. Elle est basée où?
Alors, Radio Pulsar est basée à Poitiers.
À Poitiers, bien.
Poitiers, ville universitaire. Mmh. Un Master 2 de l'économie sociale. Donc un partenariat animé par la CRES entre ce Master 2 des étudiants du Master 2 et cette radio libre du territoire qui permet de parler de l'actualité du secteur ESS, donc des étudiants au travail, une émission conçue comme une boîte à outils, là je lis ma note hein, pour être précis, tournée vers les acteurs et le grand public, réalisée par 6 étudiants du Master ESS. Allons un petit peu plus loin dans la pub, mais ça va pas être décompté dans les 20%, j'espère. J'ai pas mon carnet de chèques.
Non. L'experte à ma gauche a dit que non, ce ne sera pas
décompté. L'experte a dit non. Donc, allons-y. Une émission par mois, le mardi à 12h45, sur Radio Pulsar, 95.9.
Oui. Hein. Donc c'est des exemples, ça, de collaboration.
Et puis, madame, vous avez évoqué un sujet qui est sensible, très sensible pour un certain nombre de nos acteurs. La question de la sensibilisation à l'ESS, bon, au travers de l'action dont je viens parler, mais également, vous êtes radio libre. Hein, vous représentez aussi une forme de pluralisme par rapport à l'information. La question de l'éducation aux médias est aujourd'hui primordiale. Nous sommes dans un monde où, je crois, où les financeurs des médias se concentrent. Quelle liberté de l'information! Je crois que vous êtes un maillon essentiel et que nombre de nos acteurs, nous de l'ESS, nombre de nos adhérents seront sensibles à travailler aussi sur ces questions avec vous.
Michel Lestel, justement, je vais vous donner le dernier mot, le mot de la fin.
Juste deux choses, vous avez bien dit, je crois que tous on est d'accord, on est proche de nos auditeurs, mais ce que l'on fait par rapport peut-être aux autres médias, c'est qu'on donne la parole à nos auditeurs. Nos auditeurs sont également nos animateurs, que ce soit des particuliers ou alors des personnes qui sont dans d'autres associations. Nous sommes une entreprise, mais une entreprise de l'économie sociale et solidaire, avec les mêmes obligations que les autres entreprises, mais avec des valeurs qu'on essaye d'appliquer, ce qui est vraiment très important. Et pour vous dire qu'on est très attaché aussi à l'économie sociale et solidaire, la FARL fait partie du conseil d'administration de la CRES de Aquitaine depuis de très nombreuses années. Bon, il y a eu quelques petits changements et on le fait. Donc voilà, et aussi au niveau des radios, nous sommes au niveau du SNRL membre de l'UDES, qui est l'organisation patronale.
Beaucoup de cycles, il faudrait peut-être les expliquer.
Oui, on va arrêter, mais ça veut dire qu'on fait vraiment partie et on la défend de l'économie sociale et solidaire. C'est notre nature. Hein.
C'est votre nature. Bon, bien écoutez, merci beaucoup pour cette émission, en tout cas, et ce débat.
Merci à vous, Anne.
Et puis, bonne chance à tous, parce que les défis vont être importants entre les élections, certes, mais la construction du maillage territorial, c'est vraiment le défi de demain, on peut dire. Et bien voilà, donc c'est terminé cette émission. Merci beaucoup.